Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
J'en ai dit quelques-uns, on lit des mots terribles, Claude, contre Emmanuel Macron ce matin.
Ce qui témoigne de la liberté d'une presse d'opposition dans ce pays et aussi de la permanence d'un vieux style français, l'interpellation. Monsieur le Président de la République, chaque jour vous humiliez la France en humiliant les exilés, dit dans Libération l'écrivain Yann Moix, Moix connu pour sa participation à l'émission chaque samedi de Laurent Ruquier, mais qui tourne en ce moment un documentaire sur le sort des migrants de Calais et en ressort une colère. J'affirme, monsieur le président, que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés. Je l'ai vu et je l'ai filmé. J'affirme, monsieur le président, que des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient. Je l'ai vu et je l'ai filmé. Il y a évidemment du style chez Moix, mais aussi un propos politique, tant ce n'est pas le premier texte ces jours-ci qui interpelle directement le chef de l'État sur le sort réservé aux migrants. Et cette responsabilité directe du président est un enjeu, car pour d'autres commentateurs, Emmanuel Macron n'est en rien responsable. Ainsi, dans Le Parisien aujourd'hui, en France aujourd'hui, on voit un dessin faussement anodin. On y voit Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui se réjouissent de futures créations d'emplois, et arrive le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, chafouin, qui dit « Est-ce que c'est une bonne idée avec tous ces migrants qui vont venir chez nous ?» Mais non, ce n'est pas Collomb, c'est Macron le responsable, dit Moix, qui insiste, et qui s'en prend au président sur ce qu'il a de plus cher. Son langage, je cite Moix, « Votre verbe est creux comme votre parole est fausse et votre discours double, une charge qui n'est pas anodine envers un président qui aime les mots et dont souvent les mots sont aimés. » Tiens, on lit dans nos journaux, dans Libération aussi, que nos voisins anglais ont été absolument enthousiastiques à propos de l'interview donnée par le président à la BBC. Moix, les moins.
Et Yann Moix n'est d'ailleurs pas le seul à attaquer la parole présidentielle, Claude.
Toujours dans la presse d'opposition, donc dans Mediapart. Là, c'est un philosophe et professeur de rhétorique. L'art du langage à l'université du Cap, mais c'est une référence. Il s'appelle Pierre-Joseph Salazar, qui lui dénie tout génie à notre président qui ne serait que le bénéficiaire d'une triste époque. L'appauvrissement général de la langue française est tel qu'Emmanuel Macron passe pour un phénix. Il reflète et renvoie à leur vocabulaire à toutes les grenouilles qui demandent un roi. Nous voilà bien, Salazar réfléchit sur l'usage des symboles et l'adéquation d'Emmanuel Macron à l'idéologie de l'entreprise. Mais son refus, vous allez voir, le porte un peu plus loin, peut-être trop, je cite. Avec sa voix légèrement féminine, son strabisme imperceptible, son léger zézaillement et sa façon de ne plus prononcer les hauts, nous avons un président qui saura faire preuve de brutalité. Et voilà une attaque qui ne porte plus sur le sens des mots, mais sur l'essence même du président de la République, qui, ennemi politique, devrait être pour le philosophe dévirilisé. Voilà qui induit un léger malaise et qui nous rappelle ce que furent et restent les pamphlets. On peut aussi s'interroger sur cette identification d'Emmanuel Macron aux intérêts des élites quand on lit dans BuzzFeed et Mediapart qu'une partie de ces élites, cadres dirigeants du CAC 40 ou aux fonctionnaires, s'impliquaient l'an dernier aux côtés de Marine Le Pen. Il y aurait eu, quel qu'était le vainqueur, des sourires tout en haut de la France.
Il y a également de l'optimisme dans les journaux, Claude.
Le Parisien, qui annonce à vide beau temps sur l'emploi et qui, comme d'autres journaux, se mobilise sur le front du travail. On voit dans la Voix du Nord un cahier emploi réalisé avec la région Hauts-de-France. On nous vante les mérites des métiers de la sécurité. Dans Ouest-France, on nous raconte le canton de Pipriac qui s'est proclamé territoire zéro chômeur, et on nous parle d'une entreprise à but d'emploi et non lucratif qui s'appelle TZA et qui va littéralement chercher les chômeurs pour les remettre à la tâche. Elle en a sauvé plus de 50. Voilà Nicolas qui donne une impression de regain, et au sommet de cette impression trône le président Macron qui reçoit le patronat mondial à Versailles. Macron invite 140 patrons étrangers à choisir la France. C'est le titre de Une des Échos. C'est un sommet de l'attractivité, dit le Figaro. Il s'appelle Choose France, choisissez la France en anglais. Et on nous donne de bonnes nouvelles du business. Le Figaro nous dit que Facebook investit chez nous dans l'intelligence artificielle. Les Échos nous disent que Toyota met 400 millions d'euros dans son usine d'Onin près de Valenciennes. Macron d'ailleurs doit y aller. On est loin, vous le voyez Nicolas, des agressions d'un écrivain ou d'un philosophe. Mais enfin tout s'en tient puisque le Figaro Figaro nous le dit, les patrons français se macronisent. Pourtant, les journaux résistent à leur propre mise en scène et l'opinion, journal libéral mais lucide, taquine. Macron n'a pas inventé sa doctrine économique, mais il s'inspire du fameux rapport Attali sur la croissance, vieux de juste 10 ans et dont il était un jeune rapporteur et aujourd'hui un président qui pratique le copier-coller. Les Échos décrivent les affres de General Electric et au passage un plan social chez Alstom, racheté par le géant américain défaillant. Emmanuel Macron, alors à l'Élysée, sous François Hollande, avait été acteur de ce rachat. Il y a donc des doutes et des ombres. Les prisons toujours qui font la une de la Croix. Et puis dans le pays, une misère stagnante. Je découvre, dans Midi Libre, qu'à Narbonne, une association Narbonne Solidaire a distribué 9000 repas l'an dernier. 9000. Et dans ce même département de l'Aube, toujours dans Midi Libre, 36,8% des gens renonce à se soigner. Voilà l'envers d'un décor sans pamphlet.
Une photo, Claude, pour finir.
Qui, à la une de l'Équipe, exalte la force de l'Olympique lyonnais, qui hier renversait le Paris Saint-Germain. C'est le dos tatoué d'un lion, ça tombe bien, du buteur néerlandais Memphis Depay. Et la force de cette photo contraste, c'est toujours dans l'Équipe, avec la douceur, la tendresse, presque la fragilité des mots d'un homme désormais puissant, qui fut lui aussi un immense footballeur, un grand buteur, et à partir d'aujourd'hui le président du Liberia, George Weah, dont la journaliste Frédéric Galamette se souvient de mots ténus qu'elle lui confiait au temps de sa gloire. « Tu sais, disait Weah, alors grand footballeur, au Liberia, avec un dollar ou deux, tu achètes un sac de riz et tu nourris toute ta famille. Le riz, c'est important. » Le riz, qu'en aura-t-il fait? On finit avec ça, Bocus, qui nous a quittés. On peut raconter, comme Libération ou Le Figaro, ce poète roboratif, et on peut même lui reprocher, comme l'humanité, d'avoir fait basculer la cuisine dans le business. On peut aussi, Nicolas, regarder encore une photo, c'est sur le site internet du Progrès. Elle date de décembre 1986. On y voit un fil, un câble qui traverse le Rhône, une maison posée sur le fil, et une moto d'équilibriste. Cette année-là, un funambule avait installé son logis au-dessus du fleuve et invitait des personnalités à le rejoindre, et Bocuse s'était installé sur un trapèze suspendu à la moto au-dessus du vide. Il est toujours tout en haut, au-dessus de nous.